Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 18 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. Un islamiste armé qualifié de dangereux terroriste a été capturé dans le cadre d'une opération anti-djihadiste à Djilel, dans le nord-est de l'Algérie, a annoncé jeudi le ministre algérien de la Défense. C'est dans la même région que trois islamistes armés, des vétérans du djihad en Algérie, ainsi qu'un sergent-chef de l'armée avait été tué dans un sérieux accrochage début décembre. Selon la presse officielle, l'armée aurait ainsi déjoué un plan de redéploiement de l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, après la mort de son chef, l'Algérien Abdelmalek Droukedel, tué en juin par les forces armées françaises dans le nord du Mali. Côte d'Ivoire, l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Toby, désormais à la tête d'une plateforme citoyenne baptisée Aube Nouvelle et qui a sillonné les zones où se sont produites les violences autour de la présidentielle d'octobre, met en garde contre de nouvelles violences lors des législatives au premier trimestre 2021. L'ancien préfet estime qu'il faut repenser le contrat communautaire en Côte d'Ivoire, estimant que les codes et habitudes du voisinage actif ont été rompus. Le procès de trois militaires camerounais poursuivis pour les meurtres de 13 civils, dont 10 enfants, lors d'une opération dans un village du nord-ouest anglophone du Cameroun à la mi-février, a débuté jeudi devant le tribunal militaire de Yaoundé avant d'être envoyé au 21 janvier. Les autorités de Yaoundé ont nié pendant 2 mois toute responsabilité de son armée lors de cette opération avant d'ouvrir une enquête sous la pression internationale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait état jeudi d'importants progrès sur la voie d'un accord commercial post-Brexit entre Londres et Bruxelles, mais a ajouté que la pêche demeurait un gros obstacle à sa conclusion. La chef de l'exécutif bruxellois s'exprimait après un entretien téléphonique avec le premier ministre britannique Boris Johnson. Elle a précisé que les discussions se poursuivraient aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au COVID-19 jeudi et plusieurs dirigeants qu'il avait rencontrés se sont mis en quarantaine. La vaccination contre le COVID-19 va commencer dans l'Union européenne les 27, 28 et 29 décembre, a annoncé jeudi dans un tweet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Coronavirus ici aux États-Unis, un comité d'experts américains a recommandé lors d'un vote jeudi l'autorisation en urgence du vaccin contre le COVID-19 de la société Moderna, ouvrant ainsi la voie à l'expédition de doses dès ce week-end même. La pandémie de COVID-19 continue de peser lourdement sur le marché du travail aux États-Unis avec un nouveau bond des inscriptions au chômage, rendant toujours plus pressante l'adoption d'un plan de soutien à l'économie américaine en discussion au Congrès. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a été testé par ailleurs négatif au COVID-19 après que Cédric Richmond, un membre démocrate du Congrès, pressenti à un poste à la Maison-Blanche, a contracté le nouveau coronavirus, a publié selon un communiqué publié par une porte-parole de Joe Biden. Et puis, la relance du dispositif encadrant le programme nucléaire iranien après l'élection de Joe Biden va nécessiter la conclusion d'un nouvel accord, a déclaré jeudi Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AEA, prié de dire si cela signifiait qu'un accord dans l'accord serait nécessaire. Il a répondu oui, sans aucun doute. Et le président élu des États-Unis, Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, a indiqué qu'il souhaitait revenir sur la politique de pression maximale à l'égard de l'Iran mise en œuvre par son futur prédécesseur, Donald Trump, et réamorcer donc une approche diplomatique. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, plus de 300 élèves libérés au Nigeria 6 jours après leur enlèvement. Le dernier message à la nation du président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui va céder le pouvoir après la présidentielle dans son pays. Soudan, tension à la frontière éthiopienne après la mort de soldats dans une embuscade. Toutes ces nouvelles seront développées dans un instant. Jean-Roger Billon, on marque une petite pause et on revient à tout à l'heure. La suite de nos informations en ce vendredi 18 décembre. Nous remercions Dieu pour leur libération, c'est ainsi qu'a réagi hier soir un responsable local au Nigeria après la libération des 344 élèves enlevés la semaine dernière. Ils ont été relâchés par leurs ravisseurs dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du pays. À Abuja, les explications de Gilbert Tamba.
Le rapt des élèves de l'école secondaire scientifique de Kankara dans l'état de Katsina a pris fin à la suite de la libération des enfants. Des hommes armés avaient attaqué l'école de la ville vendredi soir et ont réussi à enlever des centaines d'enfants de l'établissement. C'est, dit-on, les 344 élèves enlevés la semaine dernière dans un internat de la ville de Kankara dans le nord-ouest du Nigeria qui ont été libérés. L'attaque avait été revendiquée par le groupe islamiste Boko Haram qui a publié dans la journée de jeudi une vidéo montrant un groupe de garçons. Le porte-parole du gouvernement de l'état de Katsina, Abdul Labran, assure que les élèves libérés étaient emmenés à Katsina, la capitale de l'état, et qu'ils seraient bientôt réunis avec leurs familles. Dans un tweet, le président nigérien Muhammadu Buhari a salué la libération des élèves kidnappés de l'école secondaire des sciences du gouvernement de Kankara. C'est un énorme soulagement pour tout le pays et la communauté internationale. Le pays tout entier est reconnaissant au gouverneur Massari, aux agences de renseignement, à l'armée, à la police, a ajouté le président Buhari. Boko Haram est connu au cours de la dernière décennie pour les enlèvements dans les écoles, comme à Chibok en 2014, lorsque plus de 200 écolières ont été enlevées. Ce matin, beaucoup de questions se posent quant aux circonstances de la libération de ces garçons.
Le Niger célèbre aujourd'hui le 62e anniversaire de la proclamation de sa République. Comme de coutume, le président Issoufou Mahamadou s'est adressé à la nation. C'est son dernier message à ce niveau, puisqu'il ne brigue pas de mandat à la présidentielle, dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. Compte rendu avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Nigérien, Nigérienne, je vous adresse mon dernier message d'anniversaire.
Pendant une trentaine de minutes, le président Issoufou Mahamadou a fait un bilan des actions qu'il a menées à la tête du pays au cours de ses deux mandats pour en tirer deux grandes conclusions selon lui.
L'émergence du Niger est possible. Notre pays en a en effet le potentiel. La deuxième conclusion, c'est l'importance de la stabilité pour un pays. Il faut des décennies d'efforts dans la paix, la stabilité, l'unité et la concorde nationale pour construire notre pays. Il faut que vous vous rassembliez tous, main dans la main, sur le chantier de la construction nationale. Cela ne dépend que de nous.
Le chef de l'État a souhaité que l'élection présidentielle du 27 décembre se tienne dans la paix et que les institutions en charge de leur organisation soient à la hauteur de leur mission.
Joyeux anniversaire de la République à toutes et à tous.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Guinée, un opposant en détention depuis septembre est mort à Conakry. Sa famille évoque un crime d'État, tandis que le gouvernement a attribué son décès à une maladie. Les détails avec Michel Joseph.
José Bamba, la quarantaine, était responsable des jeunes de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, de l'opposant Sédou Dalène Diallo. Mon mari a été maltraité en détention. C'est un crime d'État, accuse Christine Mami, son épouse. L'UDFG, pour sa part, dit avoir appris la triste nouvelle, ajoutant n'avoir pas encore connaissance de la nature de la maladie qui l'a emporté. Le Front National pour la Défense de la Constitution, une coalition opposée au troisième mandat d'Alpha Condé, a condamné cet énième assassinat de prisonniers politiques. Roger Bamba est mort d'une cirrhose du foie, d'après Sékou Keïta, responsable de la communication du ministère de la Justice. Son ministère a présenté ses condoléances, indiquant qu'il est du droit des familles et des proches de faire une demande d'autopsie. La candidature de M. Condé a donné lieu à des mois de contestations durement réprimées qui ont fait des dizaines de morts. Cinq figures de l'opposition, dont quatre membres de l'UFDG, sont en détention depuis novembre, accusés d'être impliqués dans ces violences autour de la présidentielle.
Le chef de l'armée soudanaise s'est rendu jeudi dans l'est du pays à la frontière avec l'Éthiopie, où l'armée dit avoir perdu des soldats dans une embuscade. Le point avec Abdou Ramandia.
Selon une source gouvernementale soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui préside aussi la plus haute instance exécutive du pays, est arrivé à Guédaref pour y effectuer une visite sécuritaire. La presse locale a fait état jeudi de la mort de 4 soldats soudanais, tandis que 12 autres auraient été blessés dans l'embuscade. Aucun bilan officiel n'a été fourni par Khartoum. Mercredi, l'armée avait rapporté des pertes humaines et matérielles après une embuscade menée par des forces armées et des milices éthiopiennes. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a indiqué dans un communiqué que le gouvernement appuie les forces armées. Il a effectué une visite à Addis Abeba dimanche et s'est entretenu avec son homologue éthiopien au sujet du tracé de frontières entre les deux pays. De son côté, Addis Abeba a tenu à minorer l'importance de l'embuscade, affirmant que l'incident ne menaçait pas la relation entre les deux pays. Le Soudan, notamment cette province frontalière de l'Éthiopie, connaît une grave crise humanitaire avec l'arrivée sur son sol de quelque 50 000 réfugiés ayant fui la guerre dans la région éthiopienne du Tigré, selon les Nations Unies.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec John Lindon.
Au Mali, le Conseil des ministres a adopté mercredi le projet de loi de finances pour l'exercice 2021. Les prévisions des recettes budgétaires s'élèvent à 2 155 161 000 000 de francs CFA, soit une augmentation de 0,44% par rapport à 2020. Au titre des dépenses, l'accent sera mis sur la prise en charge des actions de la feuille de route de la transition, notamment le renforcement des moyens de défense et de sécurité, la lutte contre la COVID-19, l'amélioration des conditions de vie des populations, entre autres. En Côte d'Ivoire, l'hôtel Mövenpick ouvrira finalement ses portes à Abidjan. Le groupe suisse a fait savoir qu'il procédera à l'inauguration de ce complexe le 28 décembre prochain. Il est implanté au cœur du quartier des affaires du plateau à Abidjan. Cette infrastructure marquera la première installation du groupe hôtelier déjà présent dans 5 pays africains. Le Nigeria annonce la réouverture de postes frontières terrestres avec le Bénin, le Niger et le Cameroun. L'annonce de cette réouverture intervient à 2 semaines de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental prévu le 1er janvier 2021.
À présent, la page de sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. L'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, désigné meilleur joueur européen en octobre, a réussi le doublé en arrachant le prix FIFA des bestes des griffes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L'ancien du Borussia Dortmund a empilé 55 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues, dont 15 en 10 rencontres de Ligue des Champions. Il a décroché avec son club, le Bayern Munich, le quintuplé championnat, coupe et supercoupe d'Allemagne et Ligue des Champions et supercoupe d'Europe. Le trophée du meilleur gardien est tombé dans les gants de l'Allemand Manuel Neuer, capitaine du Bayern. Le prix d'entraîneur de l'année a été décerné à l'Allemand de Liverpool, Jürgen Klopp. Chez les dames, la défenseur Lucie Bronze, partie de l'Olympique Lyonnais, cet été pour Manchester City, après un troisième sacre consécutif en Ligue des Champions, a remporté le prix de meilleure joueuse. La Fédération anglaise de football a formellement accusé hier Edinson Cavani d'avoir utilisé un terme raciste dans un message sur les réseaux sociaux, ce qui lui fait encourir une suspension de 3 matchs minimum. L'attaquant uruguayen avait répondu « Gracias Negrito, entendez, merci Petit Noir » au commentaire d'un ami sous une photo qu'il avait publiée sur son compte Instagram après une victoire 3-2 contre Southampton au cours de laquelle il avait inscrit un doublé. Le message a été rapidement effacé et le joueur, soutenu par son club, a assuré que c'était un terme affectueux et qui n'a pas de connotation péjorative en Amérique du Sud. Mais la fédération anglaise a annoncé qu'il est tout de même accusé d'avoir enfreint un règlement qui interdit tout comportement inapproprié sur les réseaux sociaux avec comme circonstance aggravante qu'il y faisait référence à la couleur et ou à la race et ou à l'origine ethnique d'une personne. La Russie est exclue pour 2 ans des grandes compétitions mondiales, dont les Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 2021 et ceux d'hiver de Pékin en 2022, pour avoir transgressé les règles antidopage, a annoncé le tribunal arbitral du sport. Le TAS a réduit de moitié la sanction proposée l'an dernier par l'Agence mondiale antidopage, qui devait être de 4 ans,
tout en laissant aux athlètes russes jamais sanctionnés pour dopage la possibilité de s'aligner sous bannière neutre. Les effets de la sanction sur le mondial de football qui s'achèvera au Qatar 2 jours plus tard ne sont pas encore clairs. Les athlètes russes peuvent certes concourir sous bannière neutre, mais le communiqué du TASS ne précise pas comment cette tolérance peut s'appliquer au sport d'équipe. La juridiction a condamné RUSADA, l'agence antidopage russe, à payer 1,27 million de dollars à l'agence mondiale antidopage pour rembourser les expertises menées sur le trucage des données du laboratoire de Moscou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Dion toujours en votre compagnie. À présent, le dossier du jour. Au Tchad, les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs ou intercommunautés en deuil presque chaque jour des familles et détruisent les biens. Une situation qui inquiète les évêques du pays. Dans leur traditionnel message de Noël, ils affirment que ces conflits tuent plus que le coronavirus et interpellent le président Idriss Déby. Le reportage d'André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique, à N'Djamena.
Ces conflits ont fait en moins de 3 semaines une 50aine de morts dans le Mayu-Kibi Est, une 10aine dans la Tangela Est au sud du Tchad et une 20aine de morts dans le Bata Est, dans le centre du pays.
Comment comprendre que les agriculteurs et les éleveurs qui sont condamnés à se compléter n'arrivent pas à s'entendre?
Abbé Xavier Kouldjoum, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad sur cette épineuse question qui endeuille très souvent les communautés. Le prélat en appelle à la responsabilité et à l'autorité directe du chef de l'État pour faire cesser ces conflits qui n'ont que trop duré et toutes les solutions envisagées jusque-là ont montré leurs limites.
On a constaté l'engagement avec lequel le chef de l'État s'est investi dans la colère de Bouma, au Mali, un peu partout. Mais ce phénomène, qui est un phénomène de vivre ensemble, s'il s'y investit, nous sommes convaincus qu'il y aura solution.
Pour les hommes politiques, il faut que le président Déby agisse pour renverser la tendance. L'opposant Haladoum Balthazar Diarma s'interroge et accuse l'administration d'être partiel dans le traitement des conflits.
Le message des évêques, en un mot, c'est la contribution de l'Église dans la résolution des conflits, à la recherche donc de la cohésion sociale et à la paix. Donc, je ne peux que m'aligner sur leur position pour demander au chef de l'État de s'investir personnellement parce que son administration sur le terrain est aujourd'hui un peu défaillante. Défaillante dans le sens où l'argent parle mieux que les situations, que les accords. Le discours qui est tenu par-ci, par-là, c'est de dire que la terre appartient à l'État. Mais l'État appartient à qui? L'État appartient à l'éleveur, l'État appartient à l'agriculteur et à ceux qui proclament qu'on essaye de dépolitiser l'affaire et que les administrateurs aussi soient partiels. Parce qu'il est sans ignorer que les sous-préfets qu'on vient de réhabiliter, les préfets et les gouverneurs ont tous des bétails entre les mains de ces éleveurs qui s'entêtent parce qu'ils pensent que la justice est de leur côté et qu'ils sont protégés.
Manasse Andigué, membre du bureau politique du parti au pouvoir, plaide pour la cohabitation pacifique et balaie d'un revers de main les accusations portées contre les administrateurs par certains acteurs politiques.
Il y a telle personne qui prend en partie qui les dénonce, personne n'est au-dessus de la loi. Moi, en ce moment, je suis choqué parce que j'ai eu des preuves, voilà, pour un simple conflit, il y a eu des morts des hommes. Il y a eu une structure qui existe pour régler ce conflit, mais les gens sont partis pour se venger. C'est une rébellion qui ne dit pas son nom. C'est regrettable. Il n'y a pas de problème qui n'ont pas de solution.
Les évêques du Tchad s'interrogent également sur la provenance des armes de guerre utilisées par les civils dans ce genre de conflit, alors que le gouvernement avait à plusieurs reprises organisé des fouilles inopinées dans les domiciles pour, semble-t-il, ramasser des armes.
On se demande d'où est-ce qu'ils trouvent ça. Parce qu'il n'y a pas un marché pour vendre les armes de guerre. À ma connaissance, ici au Tchad, ça fait peur. Parce qu'on a vu les gens mourir. On a été témoins des blessures. Et les gens qui meurent, les gens qui sont blessés, sont des Tchadiens.
Contacté à travers son service de communication pour avoir la version du gouvernement, le ministre de la Communication n'a pas donné suite favorable à notre demande. André Kodumajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Les commerçants et les camionneurs qui travaillent le long de la frontière entre le Cameroun et le Tchad sont en colère. Ils appellent à la fin des restrictions de voyage liées au coronavirus. Ils affirment se vivre alors que les clients se plaignent des prix élevés et d'une pénurie de marchandises. Les détails dans ce reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de John Lydon.
Les commerçants et chauffeurs des camions camerounais et tchadiens ont organisé mercredi une manifestation de 9 minutes sur le pont de Ngeli qui traverse la frontière. Chaque minute date de la manifestation symbolise un mois depuis que le trafic transfrontalier a été restreint en mars dernier pour Malgoni, chauffeur de camion tchadien, 47 ans, pour qui l'absence de commerce a dévasté ses revenus.
Nous, on aimerait même que la frontière soit ouverte. Parce que quand la frontière était ouverte, là, nous, quand on amène les marchandises, on décharge même à côté.
Les autorités camerounaises affirment qu'avant le 5 mars, lorsque les premiers cas de COVID-19 ont été signalés, au moins 1200 personnes traversaient le pont chaque jour. Et depuis, le nombre quotidien de traversées est inférieur à 200. La Camerounaise Chantal Nzali, 51 ans, transporte de l'huile de palme, des fruits et des légumes de la ville frontalière camerounaise de Koussiri pour les revendre en N'Djamena. Ses fournisseurs ont cessé de l'approvisionner en produits car les prix ont explosé avec la pandémie.
On a bloqué les mouvements à cause de Corona. Donc, rien ne marche comme les vivres. Il faut que l'État se bat.
Le Cameroun importe des aliments de base tels que le sorgho, les oignons et les arachides du Tchad. Abdulaziz est tchadien et négociant en arachide. Son entreprise a piqué du nez depuis le mois de mars.
Cette activité-là, ça ne marche pas. Depuis les frontières fermées, là, on souffre comme ça. Avant, là, 10h ou bien 11h, là, on vendait même 1 million, 900 000. Mais là, même 100 000, là, qui ne trouve pas au marché, là.
Le Tchad, enclavé, dépend du Cameroun pour 80% de ses exportations, avait accepté d'autoriser les marchandises de son voisin, mais seulement si elles étaient transportées par camion de la ville balnéaire de Douala directement en N'Djamena, et si les chauffeurs sont testés négatifs. Mais après la propagation du COVID-19 en mai, les deux pays ont refermé la frontière. Et Tundimbala est chef de la cellule de contrôle contre les maladies au ministère de la Santé publique du Cameroun.
Les épidémies, on le sait, évoluent sous divers modes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une phase où vous avez la vie normale et puis une épidémie survient. Et quand ça survient, le nombre de cas va augmenter progressivement. Et puis vous allez engager un certain nombre d'actions de riposte pour arriver à juguler cette épidémie. Donc le but des interventions que nous faisons, c'est d'arriver à diminuer le nombre de cas, à faire en sorte que la montée de l'épidémie ne soit pas très haute.
Le ministère camerounais de la Santé a confirmé plus de 25 000 cas de COVID-19 et plus de 400 décès. Plus de 2 000 infections sont survenues au cours des trois dernières semaines. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le Tchad compte aujourd'hui plus de 1 800 cas et plus de 100 décès.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, les acteurs culturels ont haussé le ton après les nouvelles mesures restrictives anti-COVID qui visent principalement leurs activités. Pour calmer la situation, les autorités sénégalaises ont entamé des pourparlers avec eux, malgré deux jours de négociations avec, comme médiateur l'artiste et ministre conseiller Youssou N'Dou, ils n'ont pas pu accorder leur violon et le monde de l'art devra encore subir le chômage technique pour quelque temps. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les espoirs entrevus mardi après la première journée de négociations entre les acteurs culturels et les ministres de l'Intérieur et de la Culture ont été bouchés par la nouvelle flambée des cas positifs de COVID-19 à travers le pays. Le monde de la culture devra donc prendre son mal en patience, comme l'indique Daniel Gomez, coordonnateur de la coordination des artistes musiciens du Sénégal.
Pour le moment, les autorités ne peuvent pas nous laisser travailler parce que la tendance est à la hausse. Ils ont comptabilisé aujourd'hui 168 cas et ça monte de graduellement. Donc nous avons dit que nous avons très bien compris et c'est pour cela que nous sommes concertés avec tous les responsables d'organisation pour dire que le ministre dit qu'il ne sait pas qu'il refuse d'ouvrir, c'est juste que la situation s'est dégradée et que nous allons suivre l'évolution au jour le jour et rester en contact avec nous pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourra reprendre.
Cette situation qui perdure depuis plusieurs mois commence à avoir des conséquences sociales dramatiques chez les artistes. C'est l'aveu du musicien Katsek qui ne cache pas son désespoir.
Je suis un jeune artiste musicien. Je fais face à de lourdes charges familiales. Ma mère et mes enfants sont à Touba et j'assure la totalité de leurs dépenses. Ma femme et moi, nous vivons à Dakar et nous devons payer le loyer et assurer la dépense quotidienne. Mais en ce moment, on peine à joindre les deux bouts parce qu'elle aussi, elle est artiste. artiste et travaille avec moi dans l'orchestre. Tous nos revenus dépendent des fans, donc la fermeture des salles de spectacle nous prive de notre seul gagne-pain.
Pour assister les artistes en détresse, la présidente du conseil d'administration de la Société des droits d'auteur et droits voisins demande à l'État de verser une compensation financière aux acteurs culturels. Pour Ngoné Ndour, c'est une bouffée d'oxygène indispensable pour le monde culturel.
Si on est privé de notre principale source de revenus avec l'arrêt des activités culturelles et la fermeture des salles de spectacle parce que la maladie a vraiment augmenté, il faut que l'État songe à nous verser une compensation financière afin de soulager les artistes qui ne tiennent plus pour la majorité. On fait cette demande parce que nous ne pouvons pas exercer. Même si demain les cas positifs baissent, nous serons les premiers à reprendre le travail.
En attendant une amélioration sanitaire, les acteurs culturels sénégalais ne comptent pas rester les bras croisés si leur sit-in de ce jeudi 17 décembre a été interdit par le préfet. Pour des raisons administratives, ils comptent déposer une nouvelle demande pour descendre dans la rue le 23 décembre afin d'obtenir un allègement des mesures restrictives ou une compensation financière de l'État. Sérina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Politique américaine, l'immigration sera au cœur des réformes envisagées par le président élu, Joe Biden. Aline Barros de la VOA examine le plan de M. Biden sur les futures politiques concernant les réfugiés, demandeurs d'asile et bénéficiaires du DACA. Le récit est de Lionel Gaïma.
Interdiction des visas d'entrée, restriction des demandes d'asile et des réfugiés, séparation familiale, abrogation du programme DACA, voilà quelques mesures sur l'immigration prises par le président Donald Trump que le président élu Joe Biden a promis de renverser. Pour ce faire, il faudra émettre de nouveaux décrets. Maureen Sweeney est directrice de l'Observatoire de l'immigration au Maryland Carey Law.
Tout ce que le président Trump a fait de manière unilatérale, Biden peut le défaire unilatéralement ou l'annuler simplement. Par exemple, je m'attends à ce que l'interdiction de visa d'entrée soit annulée. Et presque immédiatement, le plafond des réfugiés va changer. C'est clairement quelque chose que le président a le pouvoir de faire.
Les efforts du président Trump pour mettre fin au programme DACA ont déclenché durant son mandat des grandes manifestations. Le programme DACA de l'ère Obama protège contre l'expulsion des personnes amenées illégalement aux États-Unis en tant que mineurs. Trump a déclaré que ce programme est comme une amnistie illégale, mais a promis d'aider les bénéficiaires si le Congrès agissait.
J'aime ces gens. J'espère que le Congrès pourra les aider et le faire correctement.
Le Congrès n'a pas agi et le sort du programme DACA se joue devant les tribunaux. La décision de justice la plus récente ordonne aux agences d'immigration de rétablir complètement le programme. Mais ceux qui s'y opposent jurent de continuer à le contester devant les tribunaux. Une chose est sûre, le dénouement prendra du temps. Dans le cadre de sa promesse de contrôler la frontière avec le Mexique et d'arrêter l'immigration illégale, Donald Trump a créé le protocole de protection des migrants connu sous le sigle MPP. Il oblige les migrants à rester dans les villes frontalières du Mexique en attendant leurs audiences devant un tribunal d'immigration aux États-Unis. Les experts affirment que l'annulation et le rétablissement de la protection du droit d'asile seront les plus difficiles. Sarah Peels est analyste à l'Institut de politique migratoire.
Je pense qu'ils vont probablement ralentir ce problème. Il est certain qu'au début de l'administration, ils cesseront d'inscrire de nouvelles personnes au MPP ou resteront au Mexique.
Les partisans de la politique d'immigration du président Trump disent que les changements étaient nécessaires. Laura Rice de la Heritage Foundation.
Ce que l'administration de Trump a essayé de faire, c'est de revenir à l'intention initiale du Congrès qui a mis en place plusieurs de ces programmes.
Concernant les réfugiés qui, sous l'administration Trump, ont connu leur niveau d'admission le plus bas, Biden s'est engagé à porter le plafond à 125 000, mais il y aura beaucoup de travail à faire. Et l'immigration ne sera certainement pas en tête de la liste de priorités de Biden à cause de la pandémie de coronavirus qui fait rage aux États-Unis.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Dion, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.